marchait depuis la nuit des temps, une fabrique du sensible entre Chauvet et Lascaux. Une série de reportages réalisés par Fréquence 7 à Aubenas, Radio Bartas à Florac et Antenne Doc à Figeac.
Depuis le 29 avril, une étrange équipée a chaussé ses meilleurs souliers pour démarrer une aventure collective en itinérance au départ de la grotte Chauvet, en Ardèche, qui aboutira à la grotte de Lascaux, en Dordogne, 7 semaines plus tard. Une aventure d'ampleur à la rencontre de 40 000 ans d'imaginaire. Le projet Marché depuis la nuit des temps est porté par une compagnie de théâtre bien particulière, l'agence Monique Lézard, basée près d'Evance dans le sud de l'Ardèche. Georges Matichard et Pauline Oa, fondateurs de la compagnie, nous expliquent la genèse de cette vaste épopée.
Donc voilà, la compagnie Monique Lézard s'appelle Agence Monique Lézard, exactement. Et c'est effectivement une compagnie plutôt issue du théâtre de rue et qui a une quinzaine d'années d'existence et qui s'est beaucoup occupée depuis son existence sur la question de l'imaginaire, l'imagination et les sources de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on est une compagnie qui, par exemple, n'a pas de décor, pas de costume. On sollicite beaucoup l'imaginaire du public. En se disant, voilà, on est comme des gamins avec cette espèce de phrase que on dirait que c'est comme si, on dirait que c'est comme ça. Et c'est ce qui nous propulse depuis longtemps, c'est vraiment la matière avec laquelle on travaille depuis un bon moment, quoi.
Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on faisait beaucoup ce qu'on appelait des visites noptiques, c'était des visites sur des lieux patrimoniaux ou non patrimoniaux, des visites de terrain, avec à chaque fois une écriture historique, scientifique derrière. Donc vraiment un temps d'immersion, de repérage, de rencontre avec des personnes ressources. Et puis après, c'était voilà, une visite de ces lieux-là, avec dans l'idée de tirer un peu de temps en temps des personnages de seconde zone, par exemple, des personnages que l'histoire n'a pas forcément retenus, et d'en faire une nouvelle trame. Donc c'était en même temps des visites accessibles à des néophytes, et en même temps justement des visites qui parlaient, qui causaient aux passionnés des lieux.
Quand on s'est aperçu qu'en fait Chauvet était à 38 000 ans de nous, et que géographiquement Lascaux était pas si loin que ça, et qu'il y avait 20 000 ans qui les séparaient, ça nous a posé la question de se dire, mais finalement, dans cette origine de l'imagination, qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 000 ans? C'est conséquent, c'est énorme même. Et de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on faisait du théâtre? Comment on faisait de la musique? Comment on faisait de la parole, du conte, du mime, toutes ces choses-là, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les pratiques artistiques, comment elles se produisaient dans ces cultures anciennes, qui étaient vraiment par des gens dont on sait maintenant qu'ils étaient vraiment des gens comme nous. Donc c'est là où, là, ça a donné cette idée d'espace-temps entre Chauvet et Lascaux et d'exploration. De partir sur une exploration d'aujourd'hui, comment fouiller ça en fait. C'est ça, la question c'était comment fouiller ça. Assez tôt, on a rencontré Jean-Michel Jeunesse, qui est un archéologue assez réputé et anciennement conservateur de Chauvet, enfin quelqu'un d'extrêmement qualifié pour nous parler de tout ça, et qui s'est tout de suite bien branché avec nous sur le projet et qui a apporté une dimension qui était vraiment bien dans ses questionnements, de dire comment fouiller tout ça. Lui il a dit, ce que vous voulez faire, c'est une l'archéologie de l'intime. Et ça nous a aussi bien allumé de dire que finalement, cette archéologie de l'intime, ouais, c'est ça correspondait vraiment à nous, ce que l'on fait quand on avec les visites noptiques depuis 15 ans, à notre manière de fouiller, c'est de fouiller l'enfance, en fait. Et de se dire que quand on est individu en tant qu'enfant, on a ces capacités créatrices innées et qui sont sans doute les mêmes qu'il y a 38 000 ans. Donc voilà, ça nous a fait comme une plateforme commune de se dire, mais finalement, aujourd'hui, les gens qui habitent là ont tous cette base-là, et que peut-être si on veut comprendre cette période-là, il faut tout simplement fouiller nous dans notre présent et dans notre capacité à être créatifs et créateurs de nos propres vies. Et c'est vrai que toute cette zone rurale extrêmement profonde entre Chauvet et Lascaux, elle est peuplée de tas de gens qui font des expériences, qui réinventent des métiers, réinventent des façons d'être, en s'appuyant à la fois sur les traditions, sur ce qui est, puis en amenant aussi des éléments modernes, puis surtout des gens qui font beaucoup appel à leur créativité. Donc c'est ça qui nous a beaucoup donné aussi. À la fois, on avait l'espace-temps, le lieu, mais on avait les acteurs aussi. On avait tous les acteurs qui étaient... On avait le profil des acteurs qu'on pouvait aller essayer de rencontrer, quoi.
Peut-être ce qui est important de préciser, donc c'est à chaque fois un trio de personnes, et c'est un trio de personnes qui ne se connaissent pas.
Oui.
C'est assez important de redire ça, justement, pour éviter toute googlisation préalable, ou voilà, que les gens arrivent avec cette fraîcheur-là Et cette rencontre-là, parce que c'est vraiment une rencontre de groupe aussi, à la base, et c'est ce qui se crée pendant 5 jours de marche avec des gens que tu ne connais pas, ça c'est vraiment intéressant et c'est vraiment important pour nous de le ressouligner.
Pour rencontrer les participants, je me suis rendu à la commanderie de Jalès, la deuxième étape du début de la marche. Ancienne commanderie templière, bâtie au XIIe siècle, puis agrandie au fil des âges, Jalès abrite aujourd'hui le laboratoire Archéorient. Affilié au CNRS et dédié à l'archéologie expérimentale, Archéorient est un joyau de la recherche à la hauteur des murs qu'il abrite. Les personnes qui y travaillent partent de pièces découvertes sur des sites de fouilles au Maroc, en Jordanie ou encore en Arabie Saoudite. Ils utilisent des techniques d'époque pour mieux comprendre les us de nos ancêtres au Moyen-Orient. Dans la cuisine où nous sommes réunis, le plat qui mijote nous envoie de délicieuses effluves. Il s'agit d'un ragoût de chèvre. Si la cuisson est bien moderne, sur un fourneau au gaz, la découpe de l'animal a été faite à l'aide d'un silex biface découvert sur un site jordanien et qui date de près de 7000 ans. Curieux de comprendre comment l'outil fonctionne, l'équipe d'Archéorient a convié un boucher professionnel pour dépecer et découper l'animal avec l'ancêtre de son couteau moderne. Pour ce repas, les trois marcheuses de cette première semaine sont gâtées. Ici, comme tout au long du parcours, différents siècles et millénaires se croisent et s'entremêlent, tout comme les vies des trois femmes qui participent à cette première partie de la traversée. Perrine Fèvre est autrice et metteuse en scène de la Compagnie des Arts aux Heures. Muriel Lacan, bâtisseuse à 16 heures, est aussi bédéiste et elle est la mère de la brebis galeuse. Anaïs Massini, quant à elle, est artiste plasticienne et illustratrice. Elle partage désormais cette aventure hors du commun.
Novembre dernier, je pense, j'ai reçu un mail avec même pas un nom, je crois, enfin l'équipe de marché depuis la nuit des temps, et qui me proposait d'être marcheuse de la traversée 2024 si je le voulais. Je ne connaissais absolument rien de ce projet, je ne connaissais absolument aucune personne, enfin je n'avais aucun lien. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je recevais une invitation aussi inconnue et mystérieuse. Je me souviens que j'ai eu une émotion très très forte à imaginer pouvoir participer à ça, dans ce que j'en comprenais. Voilà, on a eu quelques échanges très succincts. J'ai absolument joué le jeu du mystère jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai à peine regardé leur site, j'ai vu qu'il y avait quelques comptes rendus de l'année dernière, j'ai pas lu. Et puis j'ai eu quelqu'un pour la première fois de vive voix 3 jours avant de partir et je suis arrivée. Le projet m'a été expliqué très brièvement par mail et j'avais une invitation à les rencontrer. Donc c'est à ce moment-là que je les ai rencontrés. J'ai eu un vrai coup de cœur pour leur projet parce que ils me plaisaient énormément et ils me plaisaient d'autant plus que depuis quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer et de lier une amitié avec une historienne qui est spécialiste de la peinture pariétale et qui m'a vraiment transmis, fait partager sa passion. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire des ateliers artistiques avec elle où elle était invitée en tant que préhistorienne. Et donc, d'un seul coup, ce projet arrive et moi, j'ai tout ça un peu autour de dans ma vie, quoi, et donc ça tout fait sens. Voilà.
Moi, j'ai rencontré Georges il y a 2 ans sur le Cosmé-Jean. Ça accrochait tout de suite parce que lui, il avait ce projet de travail sur l'imaginaire, et nous, ce qu'on veut faire actuellement sur le BES, qui est un centre où on veut développer l'idée de l'écologie par la culture. Et nous, on croit très très fort au travail sur l'imaginaire, ça. Et donc avec Georges, ça a collé tout de suite. Et ils sont venus, la caravane des marcheurs est venue chez nous, au BES, donc dans l'Aveyron, sur la commune de Sévrac d'Aveyron. Et donc c'était un peu logique. Enfin, moi j'avais très envie de marcher. C'est parce que j'adore marcher en général, que je sais à quel point ce sont des moments de vacuité dans lesquels l'imaginaire peut se déployer. Et je sais à quel point on a besoin de changer d'imaginaire pour pouvoir habiter le monde autrement. Ça, c'est vraiment le truc auquel je crois très très fort, et je suis pas la seule. Et on est vraiment dans une période de restriction de l'imaginaire. L'imaginaire est conforme, Il est formaté, et surtout il est réduit. Plus il y a de support d'imaginaire, moins il y a d'imaginaire, en fait. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça.
C'est aussi des résidences d'inspiration, ça c'est important.
Ouais.
C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a cité, c'est des gens inspirants et des gens qui s'inspirent. Donc on les met en condition comme ça. On les met dans des conditions ouvertes où ils n'ont pas grand-chose à s'occuper, on s'occupe de tout pour eux. Donc ce qui fait que quand ils marchent, ils sont vraiment complètement ouverts. Ouverts à la rencontre, et donc c'est vraiment ça, cette idée d'inspirer. Et c'est la finalité aussi, ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on parle de chercheurs, et que ça base aussi sur le fait qu'on s'est trouvé en commun entre art et science au moins, sur ce constat qui est qu'on a plus de temps pour la recherche fondamentale, on va dire. C'est-à-dire que ça, c'est des temps qui se réduisent. C'est vrai que l'économie de marché, elle nous réduit à ça. Et il faut aller chercher, il faut qu'on aille chercher par nos propres moyens des espaces et du temps pour s'inspirer. Et ça, c'est pas évident. Et donc, on s'est dit, pour l'avoir expérimenté nous-mêmes, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on puisse peut-être offrir ça comme une plateforme, de dire c'est vraiment important. C'est des moments de flânerie, d'inspiration dans lesquels on prend et on n'a pas une obligation de produire tout de suite. Ça, c'est vraiment pour nous, c'était fondamental dès le départ.
Ce que j'attends là, personnellement, c'est faire un break parce que je suis en surcharge mentale assez avancée. Donc, retrouver un moment de vacuité, déjà. Et après, un moment où il n'y a pas de charge mentale, de vacuité, parce que quand on marche, on n'a rien d'autre à faire que de marcher. Et j'essaie de discuter, mais pas trop, j'essaie de rester quand même concentré sur cette vacuité. Et puis, je laisse faire. J'aimerais bien qu'il se passe des choses, mais je ne veux pas mettre de préconçu. J'espère qu'il va se passer quelque chose. Je sais que, de toute façon, ces deux premiers jours, il ne pouvait rien se passer d'autre que je lâche. Et après, on verra. Et en plus, j'ai du mal à lâcher, puisque là, je suis sans arrêt sollicité sur des trucs super passionnants.
Effectivement, recevoir une invitation qui nécessite qu'à un moment donné, tu fasses une césure dans ta vie, dans ton rythme, dans tes contraintes, dans ton flux. Ça m'attirait beaucoup, et peut-être à une période où ça avait beaucoup de sens pour moi. Je suis pas mal en questionnement, mais enfin, je crois comme beaucoup, hein, la question du sens. Moi, j'ai 46 ans, là, aujourd'hui, ça fait presque 25 ans que je fais du théâtre, j'ai créé des spectacles. C'est quoi le sens aujourd'hui de continuer à faire du théâtre, à faire des spectacles? C'est vraiment un moment où je me pose beaucoup de questions. Et j'ai ultra fantasmé qu'un moment comme ça, de marche et d'inconnu, peut tout d'un coup te faire émerger des transcendances et des évidences.
Je me suis posé la question dans mon journal, je trouve qu'on... Alors c'est le début, mais demain c'est le milieu, ça va vite. Qu'on marche beaucoup, comme si on avait besoin de marcher. Alors aujourd'hui, un peu, Muriel, elle nous a arrêtés des fois pour nous montrer un insecte, un truc. Mais je sens que toutes les trois, on a une espèce de truc aussi un peu à vider, quoi, avant de s'attarder un peu plus. Donc peut-être je prendrai plus le temps de dessiner jeudi et vendredi.
Alors c'est vrai, quand on dit chercheur, on explose un peu la notion de chercheur. Donc c'est des chercheurs, c'est des gens, comme je te disais, qui sont des curieux, qui sont des gens qui se questionnent sur leur vie, sur leur façon de faire, sur leur façon de se projeter, de projeter même leur métier dans l'avenir, etc., de réinventer les choses. Et donc il peut y avoir autant des artistes que des scientifiques, que des artisans, des paysans, etc., etc. Mais qui ont toujours un moment de questionnement sur leur propre pratique. C'est assez large, voilà. L'idée, c'est que ce soit assez large et qu'il puisse y avoir vraiment un croisement de regards très différents sur justement la pratique de l'imagination et puis cette traversée de paysages avec cette profondeur et cette épaisseur historique, mais avec à chaque fois des regards très différents posés dessus.
Pareil, on ne sait pas tous les jours qu'on passe tout d'un coup une semaine avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ce qui me fascine là, je me rends compte depuis deux jours, c'est je me pose beaucoup la question de qu'est-ce qui façonne notre regard sur le monde, d'où ça vient, parce que on est trois personnes très différentes, très très différentes. En même temps, on est des femmes blanches, occidentale, voilà. Donc on fait partie d'un groupe avec pas mal de choses en commun, mais on est quand même des individus très très différents. Et donc on découvre toute la même chose au même moment, on rencontre une personne à l'instant T, et on a des façons de vivre ça que je perçois comme étant mais tellement différentes. Et ça, je trouve ça passionnant à observer. Au début, c'est un peu bousculant.
Il y a ces gens qui marchent, donc qui traversent le paysage de part en part entre Chauvet et Lascaux, mais il y a aussi et surtout les gens qui habitent. Et donc la véritable articulation, elle est là, c'est entre les gens qui marchent et les gens qui habitent, qui reçoivent, qui sont autour, qui eux-mêmes sont des gens inspirants. En fait, la trajectoire, elle a été tricotée de cette façon-là par nous, grâce à des moments de repérage en amont. C'était aussi de se dire, voilà, on imagine cette trajectoire, non pas en fonction des sites patrimoniaux remarquables, etc., mais vraiment en fonction des gens qui sont rencontrés et de l'échange qui pourrait se passer avec les marcheurs. Et en fait, par exemple, sur cette traversée 2024, il y a des marcheurs qui sont issus en fait, des rencontres de terrain qu'on a fait l'année dernière. Donc ça, c'est intéressant parce que ça se mélange et c'est ça qui crée du lien là où on est, quoi.
Du territoire sur lequel je vis, on a fondé un lieu collectif et associatif qui a la particularité d'être un lieu de travail et un lieu culturel et social. Et donc c'est un collectif d'artistes, d'artisans et de paysans. Et donc j'ai tout de suite aussi présenté ce lieu à Georges et Pauline. Et donc ils sont quand même venus faire une étape de la marche dans d'autres lieux. Et ils vont revenir faire une étape de la marche dans d'autres lieux, ça sera le 25 mai. Et ils m'ont reproposé, et cette fois j'avais un peu plus de disponibilité. Voilà, pour l'histoire.
La mosaïque de personnes, de lieux et d'histoires rassemblées pour marcher depuis la nuit des temps est impressionnante. L'arc Cévenol et le sud du Massif Central regorgent de pépites qui tissent tout ensemble une ruralité exubérante de créativité. Pour Georges Matichard, le travail mené met en avant la richesse immense de ces zones, souvent considérées désertes ou improductives.
On a cette chance en fait que Chauvet et Lascaux se situent sur ce sud du Massif Central, qui est une magnifique ruralité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on passe sur le mont Lozère que l'on croit désert, ben on rencontre des gens qui font des choses incroyables, formidables, et qui sont un peu isolés, et qui ont beaucoup à apprendre au reste. C'est-à-dire que ce soit sur la condition énergétique, en fait, l'autonomie énergétique, que ce soit sur une nouvelle façon de faire d'être paysan, une nouvelle façon d'occuper la terre, par exemple. On a la question de la propriété terrienne. Donc c'est vrai que tout ce projet-là, il porte, il se baigne là-dedans, et il porte politiquement des choses qui sont... Moi, à mon sens, à nous, toute l'équipe, on y croit beaucoup, c'est une histoire d'avenir. Ça qui est assez génial, c'est que le fait d'aller 38 000 ans derrière, moi, je trouve que par rapport à l'idée qu'on oppose souvent aux écolos de dire retour à la bougie, c'est même pas ça. Là, c'est retour au fondamental, quoi. C'est-à-dire que plus on va loin dans le passé, plus on a l'impression de toucher à des gens d'aujourd'hui. Et alors que quand on se réfère à cette fameuse bougie du Moyen-Âge, en fait, c'est loin de nous. Ça, c'est loin de nous, c'est loin de notre préoccupation d'aujourd'hui. Alors qu'en fait, les gens qui vivaient dans le lithique et qui avaient des petites sociétés, en fait, sont beaucoup plus proches de nos micro-familles, et on se retrouve beaucoup dans la ruralité. C'est pour ça que moi, je pense que la ruralité, dans son état actuel, novatrice, avec des gens qui viennent, qui ont été faire des études à l'extérieur, un peu plus grandes, qui reviennent avec des gros bagages, des bagages intellectuels différents d'avant, et qui viennent repeupler cette ruralité avec beaucoup d'idées, c'est une véritable mine d'informations, d'idées, et dont les villes feraient bien de s'inspirer, parce que c'est simplement décroissant, mais c'est une décroissance intelligente, une décroissance moderne, c'est pas une décroissance régressive, c'est une décroissance du futur. Et ça, c'est vachement important d'arriver à travailler et d'aborder ça, quoi. Et le simple fait d'avoir fait ce pont avec 38 000 ans derrière, paradoxalement, c'est ce qui nous rapproche le plus d'aujourd'hui, quoi.
Sa complice et collègue Pauline Hoa nous éclaire sur la finalité de cette marche 2024. Après cette plongée au cœur de notre passé, comment l'agence Monique Lézard voit-elle l'avenir ?
Ce qu'on essaye de créer comme objet, comme OVNI un peu, et ce qui nous plaît à défendre, c'est vraiment l'idée de créer un centre de recherche itinérant et pédestre autour des questions de l'imagination, la créativité et de l'inspiration.
Il y a un truc un peu nouveau dans l'idée de la résidence artistique. Et c'est en fait Ouais, l'idée de cheminer, que ce soit par le corps ou par la pensée, c'est hyper intéressant. Et puis d'être un peu télescopé comme ça, dans des lieux, avec des gens, avec d'être dans l'échange. Mais c'est beaucoup, donc je pense que c'est des choses qui vont se sédimenter après. C'est pour ça que c'est difficile de dire au milieu de quelque chose. Pour moi, de toute façon, dans mon parcours, je suis dans quelque chose qui avance. Donc, peut-être que je suis aussi à la fin de quelque chose. Okay. J'en sais rien encore.
L'avenir nous dira comment son expérience influencera le travail d'Anaïs. Car celui qui plante un arbre ne goûte que rarement à son ombre. Et tandis que, dans la commanderie de Jalès, on sert le ragoût de chèvre découpé au silex, Perrine Fèvre se prend à rêver à un avenir où nous pourrions, toutes et tous, goûter la saveur unique de l'aventure de marcher depuis la nuit des temps.
Moi, je trouve qu'on mériterait toutes et tous un jour de recevoir une lettre mystérieuse pour nous inviter à ce genre d'expérience. Et je me dis que j'ai la sensation qu'on se ressemble beaucoup tous à être invités. Et moi, par exemple, je travaille avec des gens en ce moment qui ont une vie très différente, qui ont une histoire, une couleur de peau et tout ça, très différente de moi, et j'adorerais qu'ils soient invités.
Et c'est la fin de cette émission Hors du Temps, réalisée en Ardèche pour Fréquence 7 par Quentin Béjanin. Pour plus d'informations sur le projet, rendez-vous sur le site de Marcher depuis la nuit des temps, www.marcherdepuis.fr. Marcher depuis la nuit des temps, une fabrique du sensible entre Chauvet et Lascaux. Une série de reportages réalisés par Fréquence 7 à Aubenas, Radio Bartas à Florac et Antenne Doc à Figeac.